Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
L'ombre d'un doute est de retour ce soir à 20h40. Franck Ferrand nous propose la première émission de la saison consacrée à la chute de Napoléon. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Nous sommes en effet de retour ce soir dans les grands dépôts des archives nationales pour mener l'enquête historique et pour évoquer le retour manqué de Napoléon. C'était il y a 2 siècles exactement. Vous allez voir qu'on a fait pas mal de découvertes au cours de nos recherches.
Depuis le début de l'année, vous consacrez régulièrement des émissions aux événements qui se sont déroulés il y a 100 ans,
oui,
au début de la Première Guerre mondiale.
C'est ça, c'est un dosage difficile. Vous savez, d'un côté, je ne voudrais évidemment pas assommer nos auditeurs en participant à cette espèce d'avalanche d'hommages et de commémorations qui émaille un peu trop, à mon avis, cette année de centenaire, un peu jusqu'à la nausée, si j'en crois ce que vous me dites. Et puis, d'un autre côté, on peut évidemment pas passer sous silence ces très grands anniversaires, et notamment celui de la mort de Charles Péguy, c'était il y a quelques semaines maintenant, et j'étais passé en vous disant que j'en parlerai le moment venu. Mais voilà, il est venu le moment. J'ai convié aujourd'hui Jean-Pierre Guénot à nous rejoindre et en sa compagnie nous évoquerons les disparus de la Grande Guerre, tous ces soldats inconnus d'une certaine manière, et moi je vais commencer donc par vous raconter la mort de Péguy.
Et tout à l'heure à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Jonathan, il voudrait connaître l'origine de la division du cercle en 360 degrés.
Et ben voilà une bonne question. Pour l'instant, je vous propose de nous projeter 1 siècle et 1 mois en arrière pour aller assister à la dernière journée de Charles Péguy en ce monde.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Septembre 1914, nous sommes aux toutes premières heures de la journée. Les fantassins de la 19e compagnie du 267e régiment d'infanterie, je dis bien la 19e compagnie du 276, se lèvent. Vous les imaginez, hein, ils sortent des granges où ils ont dormi comme ils ont pu sur la paille. Alors on s'ébroue, on s'époussette, il fait très beau. Les soldats sont assez enthousiastes pour tout vous dire parce que, on est en train de passer à l'action. On vient de recevoir la veille le fameux ordre de bataille de Joffre. Et c'est ce qu'on va appeler la bataille de la Marne, bien entendu. Le plus âgé des soldats de ce régiment s'appelle Charles Péguy. Il a revêtu l'uniforme légendaire des soldats de la bataille de la Marne, le pantalon rouge, qu'on appelle le pantalon Garance à l'époque, une tunique bleu foncé, un képi rouge et noir marqué de 2 galons d'or terni et les godillots ferrés avec le sabre de sous-officier qui pend à son ceinturon. Péguy passe en revue les hommes de sa section. Le capitaine a donné l'ordre de se porter en avant vers l'est, seulement il fait très chaud. Voilà ce que Victor Boudon, qui a fait partie de la 19e compagnie, a écrit dans « Mon lieutenant Charles Péguy ». Il raconte « Nous avons déjà parcouru en 4 heures près de 20 kilomètres et sous la chaleur torride que la lourdeur de notre équipement est loin d'atténuer ». À midi, des soldats reconnaissent le carrefour de la Niche où on découvre 3 villages, Villeroy, Iverny et Montion. Ça y est, là c'est le moment où commencent les combats. La mission de la compagnie, c'est d'enlever Montion à la baïonnette, s'il vous plaît. L'objectif est à 3 kilomètres, il faut lutter contre des Allemands qui eux sont munis d'une importante artillerie, qui ont de nombreuses mitrailleuses. Ça pourrait s'apparenter quand même à quelque chose comme un suicide collectif. Quelques projectiles éclatent au milieu des caissons d'approvisionnement abrités derrière un rideau de hauts peupliers, écrit Victor Boudon, tuant une dizaine d'hommes et près de 40 chevaux. Le capitaine qui commande les pièces de tête est tué net, atteint en pleine poitrine par un obus. Il n'empêche que les hommes avancent comme ils peuvent, ils se couchent le plus possible pour échapper au tir, puis ils avancent de nouveau, tant bien que mal. Nous effectuons ainsi une marche rampante de 700 à 800 mètres et parvenons sans dommage près des premières maisons de Villeroy, écrit Victor Boudon, sur une petite crête dominant un terrain en contrebas et d'où nous apercevons et suivons de très près le duel d'artillerie. Il est maintenant 14 heures. À travers la végétation, il y a des chaumes, des betteraves, la 19e compagnie reprend son avance jusqu'à hauteur de Villeroy où elle fait halte dans un creux de terrain. Les hommes se désaltèrent un peu. La trêve va être de courte durée. À 15h30, ils sont déployés en tirailleurs, c'est-à-dire en ordre dispersé. et les voilà qui combattent de nouveau. « La voix jeune et claironnante du lieutenant commande le feu », écrit Victor Boudon. « Indique les hausses et les points de mire. Il est derrière nous appuyé à une machine agricole abandonnée sur la route, debout, brave, courageux sous l'averse de mitraille qui siffle, cadencée par le tap-tap-tap infernal des mitrailleuses prussiennes. Cette terrible course dans les avoines nous a mis à bout de souffle. La sueur nous inonde et notre brave lieutenant est logé à notre enseigne. Un court instant de répit puis sa voix, sur un signal du capitaine, nous claironne « En avant !» Et bientôt, le fameux capitaine, le capitaine Guérin, est tué. À ce moment-là, c'est donc Peggy qui prend le commandement. Alors, qui est-il, ce Charles Peggy, qui a eu 41 ans au début de l'année? Ben, on connaît à peu près, évidemment, son enfance. Elle est devenue synonyme de méritocratie républicaine, d'une certaine manière. Il est né à Orléans, pas très longtemps après la guerre de 70, hein, le 7 janvier 73. C'est que sa mère, évidemment, on a beaucoup raconté tout ça. Sa mère était rempailleuse de chaises, Cécile Quéret. Il ne va pas connaître son père, puisque son père, qui était menuisier, va mourir 10 mois après sa naissance. Et ce qui est important, il faut le souligner tout de suite, c'est que son père est mort des suites des blessures d'une maladie qu'il avait contractée pendant la guerre de 70. Charles est donc élevé par sa mère, hein. Il est fils unique et il n'a que sa mère au monde. Alors, c'est un très bon élève à l'école. En 1884, il a son certificat d'études, ce qui lui permet d'entrer à l'école primaire supérieure du Loiret. C'était comme ça à l'époque. Et il est tellement bon qu'après un trimestre, il passe directement en deuxième année. Et au cours du second trimestre, il va être inscrit en sixième au lycée. Là, on lui attribue une bourse, évidemment, et il va faire preuve d'une incroyable force, on va dire. C'est un très bon élève, quoi, avec une personnalité forte, peut-être un peu forte d'ailleurs. Le proviseur écrit en 88 « Gardons-nous du scepticisme et de la fronde et restons simples. J'ajouterai qu'un élève comme Peggy ne doit jamais s'oublier ni donner l'exemple de l'irrévérence envers ses maîtres. » Mon Dieu, les temps ont bien changé. Je ris, mais il n'y a peut-être même pas de quoi rire pour tout vous dire. Son biographe, Géraldine Leroy, écrit « À la fin de son adolescence orléanaise, le jeune Peggy laisse l'image d'un élève d'exception, remarquable par ses dons et son travail. Il est profondément imprégné de l'idéologie républicaine et en particulier dans sa composante patriotique. La scolarité parisienne marquera une rupture politique et culturelle profonde avec la formation orléanaise. » En effet, il monte à Paris, Charles Peggy, alors toujours ce parcours inouï, il fait sa cagne à la Cana, à Sceaux. Il est admis ensuite au concours d'entrée à l'école normale supérieure, il va faire la classe de philosophie. Et c'est à cette époque, enfin c'est peu de temps après, qu'il va s'engager comme volontaire dans l'armée. Le 11 novembre 92, il s'engage au 131e régiment d'infanterie d'Orléans. Et à l'automne 93, il achève son année de volontariat comme soldat de première classe. Faut vous dire que il est imprégné de patriotisme, il est très proche de l'armée et en même temps il adhère à une doctrine socialiste qui à l'époque est en pleine expansion. C'est en 95 qu'il entre, si je puis dire, dans cette mouvance socialiste. Son modèle, c'est Jaurès, mais assez bizarrement, c'est pas Jaurès qu'il va suivre, c'est la figure de Jeanne d'Arc. Et oui, ça nous paraît un peu bizarre, mais à ses yeux, c'est Jeanne d'Arc qui illustre à la fois l'idéal patriotique et l'idéal socialiste.
L'Ave Maria, un extrait de la bande originale du film Joyeux Noël par Nathalie Dessay et Philippe Rombi. Dans un instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la mort de Charles Peggy.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Retour avec vous, Franck Ferrand, à Charles Peggy, à sa vie et à sa mort.
Alors, Charles Peggy, le 1er mai 1898, a acheté à Paris rue Cujas, grâce à l'argent de sa femme, Charlotte, qu'il a épousée l'année précédente. Il a acheté une petite librairie qui va très vite devenir un véritable bastion du dreyfusisme. Il faut pas oublier qu'on est en pleine affaire Dreyfus, évidemment, qu'à l'époque ça partage complètement la société française et que Peggy va adhérer complètement au dreyfusisme qui, selon lui, est un peu inséparable du socialisme. Ce socialisme le déçoit néanmoins, en tout cas, la dimension politique de l'affaire, puisqu'il ne va pas être délégué du groupe socialiste d'Orléans, comme il le souhaitait, et il fonde, en 1900, sa propre revue, qui commence déjà à prendre ses distances. Ça va s'appeler « Les cahiers de la quinzaine ». Très belle revue, tout ça est né dans l'enthousiasme, mais on peut dire que financièrement, c'est une vraie catastrophe, parce que Peggy refuse les publicités commerciales, il ne veut pas publier les cours de la bourse, etc. Donc, il est tellement marginal, d'une certaine manière, que ça peut pas marcher. Les cahiers de la quinzaine ne dépasseront pas les 1200 abonnés. Que défendent-ils, ces cahiers? Quelle est l'idée de Peggy? Bien, ils défendent une sorte de, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, de morale d'une certaine manière, où entre à la fois l'ordre, la patrie, et puis l'enseignement bien entendu, et cette idée de méritocratie. On est le socialisme selon Peggy, si vous voulez, est un moyen de donner ses chances à tous. C'est ça son idée. Rappelez-vous la très belle formule des hussards noirs de la République pour décrire les instituteurs évidemment de ce régime. Les événements vont rendre petit à petit Peggy de plus en plus nationaliste, ce qui va l'amener à rompre avec de nombreux socialistes à mesure que la menace allemande se développe et j'allais dire se déploie. Il faut se souvenir que Peggy est né dans le souvenir de la guerre de 70. Son père, je vous l'ai dit, est mort des suites des combats. Et puis il possède cette âme militaire. Il s'était engagé, je vous l'ai dit, à 19 ans au 131e régiment d'infanterie. « Ces mois de régiment l'ont ravi », écrit Jean-Pierre Rioux. « Il s'est détendu, à l'aise avec les hommes et comme protégé et rendu à lui-même sous l'anonymat de l'uniforme. Il s'y est senti maître de sa vie, loin de la rudesse familiale, de la pauvreté faubourienne et des odeurs d'encre des salles d'études. Il a gravi quelques échelons, est devenu caporal, sergent, puis sous-lieutenant de réserve quand même en décembre 1890. Son ami Jacopo écrit « Il surveillait, constatait, prenait en charge et pour ainsi dire dirigeait tout ce que la vie plaçait sous son regard et dans le rayon de sa pensée, les êtres, les idées, les événements, les paysages. Il était né chef et chef militaire. » Et pourtant, il n'a rien d'un militaire. C'est plutôt, quand on le voit, on pense évidemment plutôt à un enseignant avec son lorgnon, ses allures un peu d'intello, si j'ose cet anachronisme. Le 6 juin 1905, c'est la crise de Tanger. Vous savez, Guillaume II nous donne du fil à retordre au Maroc. Pour la France, c'est un moment très inquiétant. On pense d'ailleurs que ça va être la guerre. Voilà ce qu'écrit Peggy à son amie Geneviève Favre, qui est la fille de Jules Favre, vous savez, le ministre de l'époque du siège de Paris. « La situation extérieure est très mauvaise. Nous sommes depuis 3 semaines plus près de la guerre que nous ne l'étions en juin 70. » Et d'ailleurs, il va jusqu'à préparer son équipement militaire. Il aura d'ailleurs la même réaction en juillet 1911 au moment de l'autre grande affaire, de l'autre grand bras de fer avec les Allemands, ce qu'on appelle la crise d'Agadir. Durant cette période, Peggy continue évidemment à collaborer au cahier de la quinzaine. Il y a cette espèce de patriotisme qui est doublé chez lui d'un retour à la foi catholique. Il était assez anticlérical et c'est peut-être son appartenance socialiste qui l'y avait conduit. Il revient à la religion sous la pression d'un certain nombre d'événements. D'abord, lui-même est peut-être plus fragile. Il y a ses conditions de vie. Il travaille beaucoup, il gagne très peu d'argent. Il n'est pas très loin de la dépression. D'ailleurs, il va tomber malade à plusieurs reprises, dont il va faire une hépatite en 1908 qui va avoir des conséquences, bien entendu. Il a une typhoïde qui va frapper son troisième enfant en février 1912. Tout ça, évidemment, crée beaucoup d'inquiétudes, le ramène à la prière d'une certaine manière. Il va faire un pèlerinage à Chartres, dont il va parler plusieurs mois plus tard. « Je n'avais aucun entraînement, dit-il, j'ai fait 144 kilomètres à pied en 3 jours. Ah, mon vieux, les croisades, c'était facile. Il est évident que nous autres, nous aurons été les premiers à partir pour Jérusalem et que nous serions morts sur la route. Mourir dans un fossé, ce n'est rien. Vraiment, j'ai senti que ce n'était rien. » Pour autant, je ne vais pas jusqu'à dire que Peggy est pratiquant. On pourrait dire que sa doctrine le rapprocherait plutôt d'une forme de catholicisme social, si vous voulez. Il se méfie de la hiérarchie de l'Église, notamment. il va de plus en plus s'éloigner de ce socialisme qui avait imprégné sa jeunesse. En 1913, dans L'Argent et l'Argent Suite, il accuse certains de ses anciens camarades de ne pas mesurer les risques que fait peser la menace allemande et d'abandonner la défense du pays au nom d'une sorte d'idéalisme pacifique contre lequel alors il se dresse complètement. Quelques mois avant de partir au front, en 13, il écrit « Depuis que nous sommes sous la menace allemande, c'est-à-dire depuis 1905, nous sommes tenu de nous mettre un point d'exaspération maximum et nous y tenir ferme, sans jamais, sans aucunement détendre, sans jamais nous reposer. » Son modèle de guerre, ce ne serait pas tout à fait celui de la guerre industrielle du XXe siècle. Lui se complaît encore dans un idéal militaire de la Révolution, de l'Empire. Dans une lettre toujours à Madame Favre, il écrit « Je pars soldat de la République pour le désarmement général et la dernière des guerres. »
Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission, nous envoyer vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la mort de Charles Péguy.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la mort de Charles Péguy.
Charles Péguy qui donc est parti à cette guerre qu'il attendait d'une certaine manière. Le train est bondé, bruissant, mélange de gravité, de braillement, écrit Jean-Pierre Rioux. À chaque arrêt depuis Paris, on a beaucoup crié à Berlin. Des civils et des mobilisés ont repris en chœur le chant du départ. On a fait ample distribution de hurrahs masculins, de sanglots et de baisers féminins. Péguy rejoint donc cette fameuse 19e compagnie dont je vous parlais tout à l'heure. Victor Boudon, qui donc l'a connu à l'époque, écrit... Il était un officier de petite taille, en tenue, couvert d'une pèlerine noire, à l'allure martiale, au visage énergique, à la barbe blonde, le regard malicieux derrière le binocle et le sourire fin qui surveille les arrivées d'un air paternel. Péguy fait la police, se dépense, interpelle les retardataires, ouvre et ferme les portières et fait monter les hésitants. Vous voyez toujours cette espèce d'énergie qui l'anime. Évidemment, assez vite, les choses vont se gâter, puisque vous savez que c'est l'invasion de la Belgique à partir du 31 août. Il faut se replier du 31 août. Au 2 septembre, Péguy et ses hommes vont effectuer quelques 150 km de l'Oise jusqu'aux abords de Paris. Et le 5 septembre, il est donc, c'est ce que je vous racontais au tout début de ce récit, il est à une trentaine de kilomètres de Paris, il a remplacé le capitaine qui est tombé. Nous continuons à tirer comme des enragés, écrit Victor Boudon, pensant que notre tir rapide nous protégera contre le feu des mitrailleuses qui ne ralentit pas. Nous sommes tous noirs de poussière et de poudre collée au visage par la sueur, le fusil nous brûlant les mains. Chacun s'efforce de creuser la terre entre deux coups de feu afin de s'en faire en l'amassant devant soi un insuffisant abri dans lequel les balles s'enfoncent avec un bruit mat nous aveuglant de poussière. Certains plus privilégiés, ayant conservé leur sac, se protègent au mieux la tête avec, mais les Allemands tirent au ras du sol et ces pauvres abris illusoires sont donc à peu près inutiles. Et on voit Péguy qui continue à avancer debout sous la mitraille et malgré les « couchez-vous » lancés par les soldats, il lui réplique « tirez, mais tirez, nom de Dieu !» Ces hommes lui disent « nous n'avons pas de sac, mon lieutenant, nous n'allons tous y passer, ça ne fait rien, moi non plus, j'en ai pas, voyez, tirez toujours !» Et il va avoir cette phrase, évidemment célèbre, « ah mon Dieu, mes enfants !» Et voilà Péguy qui tombe d'un bloc. Le lendemain, le dimanche 6 septembre, le capitaine d'état-major Henri Dufraître va découvrir le corps au milieu des autres cadavres dans ce champ de betteraves et d'avoine dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un petit homme d'apparence chétive à côté de son voisin, un type de colosse, écrit-il. Il est couché sur le ventre, le bras gauche replié sur sa tête. Ses traits, que je vois de profil, sont fins et réguliers, encadrés d'une barbe broussailleuse teintée de blond, mais paraissant grisâtre du fait de la poussière. Car il est jeune encore, 35 à 40 tout au plus. En fait, je vous l'ai dit, il a 41 ans. L'expression de son visage est d'un calme infini. Lui aussi paraît plongé dans un profond sommeil. À son annulaire gauche, une alliance. Je me penche sur la plaque d'identité. Péguy. Il s'appelait Péguy. Comme ses camarades tombés au champ d'honneur, Péguy va se voir décerner la croix de bois. Officier d'une grande valeur morale, a fait preuve du plus grand courage dans des circonstances très critiquées, a été tué à la tête de sa troupe qu'il conduisait à l'attaque. Et dans les jours qui suivent, les réactions sont nombreuses dans le milieu intellectuel. Vous l'imaginez, c'est un grand écrivain qui vient de mourir, bien entendu. Et tout le monde, depuis Maurice Barrès dans l'Écho de Paris, disant « Le voilà sacré, ce mort est un guide », jusqu'à Jean Longuet dans l'Humanité qui dit « Je veux seulement saluer la mémoire de cet écrivain de race, de ce militant qui fut le camarade de beaucoup d'entre nous ». Tout le monde pleure Charles Péguy. Bonjour Jean-Pierre Guénot.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous pour parler, alors on va dire un mot de Péguy bien entendu, mais de tous ceux dont vous avez retracé le destin, en l'occurrence vous avez sorti, non pas de l'anonymat, mais de la poussière, un certain nombre des tombés de la Grande Guerre.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, des disparus de la Grande Guerre, avec votre invité Jean-Pierre Guénot, écrivain, historien, directeur de la culture d'Aristophile et des musées des lettres et manuscrits de Paris et de Bruxelles, auteur de l'ouvrage « En la peau du soldat inconnu » aux éditions Le Passeur.
Alors Jean-Pierre Guénot, le musée des lettres et des manuscrits vient de faire son jubilé annuel, donc vous étiez à la manœuvre là bien entendu.
Oui, juste avant que d'ouvre l'exposade, il y avait l'exposition « Entre les lignes et les tranchées ». Et qui m'a permis d'ailleurs de projeter dans le soldat inconnu l'un des 7 personnages que j'y projette.
Alors, ces personnages, vous avez noté roman sur la couverture du livre, ce serait plutôt des récits à la première personne d'une certaine manière. Vous incarnez un certain nombre de ces héros, est-ce que le terme d'ailleurs est bien choisi, en tout cas de ces personnes mortes pour la France pendant la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, on verra tout à l'heure qu'il y en a de toutes les sortes. Un mot peut-être du 8e, d'une certaine manière, de Charles Péguy, qui aurait pu être votre 8e héros.
Et qui meurt avant l'un d'entre eux, d'ailleurs, qui est Alain Fournier, qui
exactement,
mourra 17 jours plus tard. Mais Charles Péguy, ce qui est étonnant, c'est qu'un mois avant sa mort, il écrit à son ami le pasteur Jules-Émile Roberti, les deux lignes qui suivent. « Eh bien, mon fidèle maître et ami, nous sommes dans la main de Dieu. Si je ne reviens pas, vous vous occuperez de ma femme et de mes enfants. Mon adresse est M. Péguy, lieutenant, à la 19e compagnie, 276e régiment d'infanterie. Rien de plus. » Voilà les dernières lignes de Péguy.
Une sobriété qui fait froid dans le dos.
Citait son alliance, tout à l'heure ses enfants. Et
il avait 4 enfants, dont un à naître.
Hein. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand il dit « à mon Dieu, mes enfants », il s'agit à la fois de ses hommes et de ses enfants.
Oui. Il avait écrit aussi l'année d'avant, dans Ève, « Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés dessus le sol à la face de Dieu, heureux ceux qui sont morts pour leur âtre et leur feu et les pauvres honneurs des maisons paternelles ». Quelque part, il a eu, je ne sais pas si je peux aller jusqu'à dire ça, mais il a eu la mort dont il aurait rêvé.
Tout à fait. Et là encore, un petit peu comme son ami Alain Fournier, qui avait cette espèce de prescience. Alors ce qui est étonnant, c'est que nous n'avons pas appris une chose très importante dans nos livres d'histoire. Pourquoi le soldat inconnu est-il si populaire en France? Eh bien tout simplement parce que sur les 1 500 000 poilus français qui ont laissé leur vie sur les champs de bataille, il y en a un tiers. C'est-à-dire 500 000 qui n'ont jamais été identifiés. Ça veut dire très concrètement.
C'est très très important.
C'est énorme. C'est une guerre d'artillerie. Au départ, c'est une guerre de mouvement. Quand les gens sont
enterrés.
C'est une
guerre qui hache les gens sur place.
Totalement. Et qui les hache à nouveau lorsqu'ils sont enterrés. Verdun, c'est 40 km². La plupart du temps, les cimetières sont relabourés par les bombes. Et donc, ça veut dire qu'une famille sur 3 n'a jamais eu la certitude scientifique de la mort du défunt, qu'il se soit agi du père, du fils ou du mari. Et il y a encore 20 ans, quand il y avait encore quelques poilus vivants, eh bien, il y avait toujours des fantasmes dans certaines familles. Bien des sûr. Gens se disaient, mais si ça
tout.
Se trouve, il a été fait prisonnier, peut-être a-t-il refait sa vie
Puis
en
il a changé de vie, c'est
voilà.
ça. Ouais. Et il y a eu, évidemment, ce très célèbre roman de Sébastien Chaprizeau, Un long dimanche de fiançailles, sur alors lui parlait aussi de tous les fusillés pour l'exemple, mais en même temps, c'était sur ces disparus et sur cet espoir parfois insensé que pouvaient avoir les familles, les veuves, enfin, ou celles qu'on prétendait elles, les fiancés, de voir revenir finalement l'homme qui avait disparu au combat et dont on n'avait jamais retrouvé le corps.
Tout à fait. Une famille sur 3, le syndrome des femmes de Barin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de corps.
Donc, pas possibilité de faire un vrai deuil. C'est terrible.
C'est bien pour ça que les pouvoirs publics ont compris qu'il fallait absolument faire quelque chose pour qu'un tiers des familles se reconnaissent dans le soldat inconnu. Alors, je ne pouvais pas. C'est donc une chimère, le soldat inconnu. C'est un être composite, mythique. Je ne pouvais pas y projeter 500 000 personnes. Il aurait fallu quelques volumes.
Ça aurait fait de vous une sorte de Saint-Simon ou de Proust de la Première Guerre mondiale.
Alors je me suis contenté d'en projeter 7 Alors mon roman est aussi un faux roman parce que j'ai repris leurs mots, voilà. Les mots de leurs lettres. Les sept ont existé. Alors j'ai cet artifice de fiction qui fait qu'ils se réincarnent, pas forcément lorsqu'ils sont tués pour de bon. Ils se réincarnent soit lorsqu'ils sont tués, soit lorsque quelque chose disparaît en eux. En général, leur enfance. Il y a chez certains d'entre eux qui ont survécu à la guerre une forme de renoncement. À partir du moment où ce renoncement intervient, je les réincarne immédiatement et c'est comme ça que mon soldat inconnu est composé de sept personnages.
Alors évidemment, on va parler de ces sept personnages, on va essayer de détailler leur destinée. Un mot peut-être de ce soldat inconnu. Qui était-il, le véritable soldat inconnu qui actuellement repose sous l'Arc de Triomphe, sous la fameuse flamme qu'on vient constamment ranimer ?
Eh bien de lui, on ne sait pas grand-chose, sinon qu'il a été tiré au sort par un certain Auguste Thin. Qui était un jeune poilu vaillant, qui s'était vaillamment conduit. On a sorti 8 corps sur les principaux champs de bataille, on les a envoyés à Verdun, et là il y a eu un tirage au sort qui a été fait parmi ces 8 corps. Ce soldat a failli atterrir au Panthéon, car les élus, le gouvernement, voulait opérer une sorte de jumelage. Le 11 novembre 1920, l'idée était d'envoyer le soldat inconnu au Panthéon en même temps que le cœur de Gambetta. Mais les ligues d'anciens combattants ne l'entendaient pas de cette oreille, d'autant plus que l'extrême droite était très puissante et trouvait que le Panthéon était habité par des gens qui, aux yeux de l'extrême droite, n'étaient pas fréquentables. Et c'est comme ça que le soldat inconnu a fini par atterrir sous l'Arc de Triomphe, mais avec une épopée hallucinante. Le 11 novembre 1920, la cérémonie a lieu. André Maginot est le ministre
des anciens combattants.
Il fait son discours. Mais on attendra février 21 pour envoyer le corps, car le 11 novembre 1920, Paris est en état de siège. Avec les polémiques qu'il y a eu, Panthéon, pas Panthéon, au bout du compte, le soldat inconnu a quand même cheminé par le Panthéon avant d'aller sur l'Arc de Triomphe. Et Paris est totalement cerné par la police. On pense que l'extrême droite risque d'enlever le soldat inconnu. Donc on va attendre encore quelques mois, même si la cérémonie a lieu ce jour-là, pour le transférer.
Alors vous avez mis le doigt sur une ressemblance assez étrange entre les discours d'André Maginot au moment de l'entrée du soldat inconnu dans sa dernière demeure et le célèbre discours, évidemment, d'hommage à Jean Moulin et d'entrée de Jean Moulin au Panthéon dans la voix chevrotante d'André Malraux.
Alors c'est tout à fait étonnant. Lorsque j'ai lancé Parole de Poilu il y a 15 ans, un éditeur qui s'appelle Patrick Frémaux a coédité avec Radio France un discours dont nous ne connaissions pas l'existence. On a cru longtemps que l'inhumation du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, c'était un film muet des actualités Pathé-Gaumont. Et puis cette année-là, avec le buzz créé par Parole de Poilu, des collectionneurs se sont manifestés. Un certain Jean-Yves Patte nous a remis la bande mère de ce film, dont toutes les copies, comme par hasard, avaient disparu. Et là, on se rend compte du fait que...
J'aime bien le « comme par hasard ».
Que fait André Maginot ? Il accompagne le soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, et il commence son discours par ces mots « Entre ici !» Et alors, pour une chose très comparable, liée à la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'André Malraux accueille les cendres de Jean Moulin, cette fois-ci au Panthéon, son discours commence par...
Entre ici. Eh oui, il y a comme ça des coïncidences de l'histoire.
Troublant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Les disparus de la Grande Guerre sont au cœur de l'histoire cet après-midi avec vous Franck Ferrand et votre invité Jean-Pierre Guénaud, écrivain, historien, directeur de la culture d'Aristophile et des musées des lettres et manuscrits de Paris et de Bruxelles, auteur de Dans la peau du soldat inconnu aux éditions Le Passeur.
Oui, ce n'est pas Henri Guénaud notre invité, c'est bien Jean-Pierre Guénaud, l'homme de Parole de Poilu, du musée des manuscrits, etc., qui va constamment chercher dans nos extraordinaires archives ces pépites qui font vibrer l'histoire en quelque sorte. Alors, on va être très simple là, Jean-Pierre Guénaud. Je vais feuilleter votre livre et on va revenir sur un certain nombre de ces personnages. Qui est ce Maurice Maréchal que vous faites parler à la première personne ?
Et Maurice Maréchal, c'est le poilu dont la tête figure sur la couverture de Parole de Poilu. Je m'en suis aperçu beaucoup plus tard parce que Maréchal, c'est comme Dupont. Maurice Maréchal, c'est le plus grand violoncelliste de la première moitié du XXe siècle. C'est le découvreur de Rostropovitch. Alors lui a survécu à la Grande Guerre, mais lui, comme d'autres, a perdu quelque chose pendant cette guerre. C'est une forme de la fraîcheur de son enfance,
oui,
une forme d'innocence. Il était d'abord agent de liaison, ce qui était très très risqué parce qu'il fallait sauter de tranchée en tranchée. Il était avec un de ses amis qui était le violoniste Lucien Durosoir. Puis au bout de quelques temps, les généraux français leur ont demandé de former une sorte de quatuor pour les divertir. Alors là, ils ont, dans un second temps, après avoir été très exposés, ils ont été un petit peu préservés. Et Maurice Maréchal ne cesse d'écrire à sa mère, ne cesse d'écrire ses pensées dans ses carnets. Et il est aussi formidable épistolier qu'il est formidable violoncelliste. Et il n'y a pas un de ces mots qui donne la chair de poule. Et c'est pour ça qu'il méritait bien de rentrer dans ce magma qui compose la chair du soldat inconnu.
Est-ce que si la Grande Guerre, dont on célèbre évidemment le centenaire du commencement cette année, 1914-2014, est-ce que si cette Grande Guerre est encore aussi présente aux mémoires, si elle fait encore partie de, comment pourrais-je dire, du paysage psychologique des Français, ça n'est pas aussi grâce à ce genre de témoins qui ont su, quand tant d'autres ne pouvaient faire autrement que se taire, qui ont su parler, qui ont su mettre des mots sur des souffrances qui parfois sont pourtant indicibles?
Qui ont su parler et faire vibrer leur âme. Il y avait 4 millions de lettres qui sortaient chaque jour des tranchées. Là, on en a quelques-unes. Maurice Maréchal, bien les noms, les gens qui ne sont pas des mélomanes ne le connaissent pas forcément. Et puis à côté de lui, il y a d'autres poilus totalement inconnus. Mais 100 ans après, il y a quand même quelque chose de troublant. Une seule chose qui justifiait ce livre, qu'on leur rende hommage à ces disparus. Les chiffres des victimes ont fluctué entre les années 30 et aujourd'hui, entre 900 000 et 1,3 million. Elles ont été stabilisées il y a quelques années à 1,4 million. J'ai moi, il y a 15 ans, je ne suis qu'un pauvre littéraire, mais je sais faire des additions, j'ai chiffré 1,5 million. C'est ce que disait Auguste Thin quand il a été interviewé en 1927 par Excelsior. Il a parlé d'1,5 million morts. Et il y a quelques jours, l'AFP a publié une brève indiquant que dans les Alpes-Maritimes, les généalogistes ont fait leur travail. Ils ont retravaillé le chiffre des morts de la Grande Guerre. Leur département était un peu épargné. Ils n'avaient en apparence que 6500 morts. Ils en ont trouvé plus 30%.
Et voilà.
Alors je ne sais pas si toutes les statistiques sont comme ça, mais ce qui est terrible, c'est qu'on n'oublie pas 3 personnes là. On oublie des tranches de 100 000. Ça n'est pas manqué de respect que d'oublier ces tranches de 100 000.
Et c'est pour ça que, je le disais tout à l'heure, évidemment, il y a une forme de saturation devant la quantité des commémorations liées à ce centenaire. Mais dès qu'on rouvre la porte, si je puis dire, dès qu'on rouvre les dossiers, tout simplement, et qu'on se repenche, ne serait-ce que quelques heures, dans ce qu'a été cet événement effroyable, ce grand cataclysme de l'Europe, on se rend compte qu'en fait, on ne le commémorera jamais assez, d'une certaine manière. Et il ne faut jamais avoir peur d'en faire trop, si je puis dire.
Pas ça pour faire de l'archéologie. Il y a quelque chose de très pédagogique. Il se trouve que ce terrain de mémoire est un formidable terrain de communication, de dialogue intergénérationnel, puisqu'il n'y a quasiment pas un enfant aujourd'hui qui n'ait un arrière-grand-père ou un arrière-arrière-grand-père poilu. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et puis surtout, la Grande Guerre nous donne un spectacle que démentent les lettres. C'est celui de l'enfumage, de la propagande. Aujourd'hui, si nous voulons armer nos enfants pour en faire de parfaits citoyens, eh bien, s'ils étudient la propagande sous la Grande Guerre, ils arriveront mieux à démonter celle à laquelle nous assistons parfois aujourd'hui, à l'aube du XXIe siècle.
Pour certains dignitaires de la Belle Époque, écrivez-vous, alors là on est dans le deuxième chapitre, hein, si je puis dire, dans le deuxième récit, le monde n'était qu'une grande termitière, une sorte de ruche, de fourmilière avec ses rôles bien préétablis, l'ordre immuable qui vous faisait naître roi, reine, prince ou princesse, mâle dominant, esclave, ouvrier ou soldat, valet de ferme ou métayer, manœuvre ou contremaître. Cet ordre excluait toute révolution populaire, mais au cœur de la Belle Époque, la canaille avait enfin appris à lire et à écrire. Certains élèves allaient pouvoir dépasser leur maître et se forger un destin.
Oui, j'évoque la canaille parce que c'est le mot qu'ont les généraux français qui font le début de cette Grande Guerre. Pas tous, mais beaucoup. Ont tous un point commun. Ils ont fait leur classe dans les colonies, dans la guerre coloniale. Ils ont appris à mater les indigènes. Ensuite, ils ont continué leur classe en France en matant les émeutes populaires, très nombreuses, entre 1870 et 1914. Et quand ils parlent du peuple, ils en parlent comme de la canaille, comme quelques siècles plus tôt, sous l'Ancien Régime. C'est très étonnant.
Étienne Tanty, votre philosophe, si je puis dire.
Alors, c'est le rebelle. C'est le rebelle de service. Étienne Tanty, il a raté Normal Sup de très peu. Il est le fils d'un prof de philo bibliothécaire à Versailles. Et lui, il ne finira jamais plus que caporal. Parce qu'il ne peut pas s'empêcher d'ouvrir sa bouche. Mais alors, ses analyses sont d'une finesse incroyable. Ses descriptions de combats sont formidables. Lui, il va survivre à la guerre. Il va être très grièvement blessé à un moment donné. Mais alors lui est un illustre inconnu, entre guillemets, mais là encore, comme avec Maurice Maréchal, il a des mots qui donnent la chair de poule.
On ne reviendra pas, si vous le voulez, sur le cas d'Alain Fournier. Nous avions d'ailleurs consacré, je ne sais plus si c'était ensemble, Jean-Pierre Guénot, mais en tout cas nous avions consacré il y a quelques années une émission à Alain Fournier, à ce micro.
Il est là simplement pour figurer ce qu'était le jeune homme type, mort dans les tranchées, avec la belle histoire d'amour qui avait parfois précédé son épopée.
Mais alors, très intéressant, le cas de Martin Vaillagou. Alors ça, il faut que vous nous le racontiez, il faut prendre un tout petit peu le temps, là, ça vaut la peine.
Martin Vaillagou, c'est un paysan du Quercy, et il écrit à ses deux fils, qui sont petits, qui ont 9 ans, et à sa femme. Et alors, il est l'archétype du poilu qui ne peut pas accepter de diaboliser l'ennemi, et qui fait preuve, dans le pire des épreuves de la Grande Guerre, fin août 14, il y a eu 27 000 morts le 22 août 14, cet homme reste humaniste, ses enfants lui demandent de leur envoyer des balles prussiennes et un casque de Bosch. Et là, il a une lettre magnifique dans laquelle il dit « Bon, les balles, je verrai ce que je pourrais faire. Mais mes fils, le casque de Bosch, imaginez qu'un petit Allemand demande la même chose à son papa. » Et que son père lui envoie un képi de français, parce qu'à cette époque-là, les pauvres Français n'ont pas de casque. Ils attendront encore un an et demi pour en avoir. Ils ont des képis. Et que ce képi fût celui de votre père. Est-ce que vous comprenez ce que ça voudrait dire? Si vous ne comprenez pas maintenant, vous garderez ma lettre et vous comprendrez plus tard. Et là, il enchaîne en leur disant qu'après tout, les Allemands sont comme eux. Ce sont des gens victimes d'un processus qui les broie. Et plutôt que d'envoyer un casque Bosch, il va leur envoyer des primes verts. Ça, c'est très fort, parce que à ce moment-là, la plupart des poilus devraient avoir des désirs d'homicide. Ce sont leurs amis d'enfance qui meurent à côté d'eux. Un tiers de ces 1 500 000 morts vont mourir dans les 9 premiers mois. Donc la plupart de ces gens-là, comme Martin Vaillagou, ont vu leurs amis d'enfance exploser sous les obus, étripés par les baïonnettes, et malgré ça, ils gardent leur humanisme. C'est quelque chose de tout à fait étonnant et qui va contre tout ce que la propagande a pu nous apprendre.
Je passe sur le cas du colonel Drian, auquel on avait également consacré une émission, ce qui était par ailleurs un auteur à grand succès.
Qui montre que tous les officiers supérieurs n'étaient pas incompétents. Il ne faut jamais généraliser. Lui a été victime de son professionnalisme, si j'ose dire.
On peut dire ça. Je passe également sur le cas de Gustave-Henri Valentin Erduin. Là, on est dans le cadre, dans le drame des fusillés pour l'exemple,
en quelque sorte. Oui, mais en 1916, alors que c'est un héros de Verdun, il a laissé son nom à une rue de Reims. C'est quelque chose d'absolument terrible et épouvantable. Il a été... Le peloton d'exécution... On a désigné les hommes qu'il avait sauvés pour le fusiller. Alors quand il a vu ça, il a dit d'accord, mais je vais commander mon peloton d'exécution. Et c'est lui qui a commandé son peloton d'exécution.
C'est lui qui a dit feu, en fait.
Il a dit Anjou feu. Et ses dernières lettres à sa femme sont terribles, parce que les premières lettres, il est un héros. Donc il est encensé quand il retourne dans les lignes. Et puis là, il y a une vieille baderne qui n'aime pas les petits jeunes et qui va l'accuser d'abandon de poste, ce qui est tout à fait scandaleux, et le faire fusiller sans jugement. L'ordre de grâce est arrivé une heure après son exécution, tellement évidente était son innocence.
J'aurais bien aimé qu'on puisse parler de Loys Roux et parler des prêtres d'ailleurs qui se sont battus pendant la Première Guerre mondiale. Bon, j'en renvoie nos auditeurs à votre ouvrage. Un mot quand même de celle qui clôt le banc, si je puis dire. Alors là, je ne m'y attendais pas du tout. Mata Hari, mais que vient faire Mata Hari dans cette histoire?
Eh bien... C'est la chute du livre, d'une certaine façon. Et la personne qui dort, ça c'est mon petit pied de nez à l'histoire, la personne qui dort sous la flamme de l'Arc de Triomphe n'est pas peut-être pas celle que vous imaginez. Et ça c'est pour une bonne raison. Qui sont les vraies victimes de la Grande Guerre? Ce sont les femmes, celles dont on ne parle jamais. Quelle qu'ait été la longueur du calvaire d'un poilu, quand il est mort, il est mort. Mais à ce moment-là, le calvaire des filles, des veuves ou des mères commence, et il n'est pas prêt de finir. Hein, faut-il citer toutes ces femmes qui vont attendre 5 ans le premier sou de pension, attendant que les tribunaux aient décidé si oui ou non leur mari ou père était mort au champ d'honneur. Voilà, c'est, mais on va pas donner tous les détails, mais c'est ma façon de faire qu'on n'oublie pas les femmes.
Dans la peau du soldat inconnu, donc par l'auteur de Paroles de Poilu, Jean-Pierre Guénaud, c'est aux éditions Le Passeur. Merci beaucoup Jean-Pierre Guénaud.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Jonathan. Il nous l'a envoyé via le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Sa question est la suivante. Pourriez-vous me dire pourquoi on divise un cercle en 360 degrés?
Alors, ben, on s'est bien posé la question pour tout vous dire. C'est vieux, hein, cette histoire, puisque ce sont les Sumériens qui, les tout premiers, ont commencé par découper comme ça le cercle en 360 degrés. Et puis, ils vont transmettre ça aux Babyloniens, etc., etc. Alors, vous allez me dire, 360, c'est ce qui est important. C'est que c'est 30 fois 12 et que toutes ces civilisations comptaient en système duodécimal, c'est-à-dire par 12, en base 12, si vous voulez. Pourquoi ? Et parce qu'ils utilisaient les trois phalanges des quatre doigts en dehors du pouce. Et avec le bout du pouce, ça permettait de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ça. Alors évidemment, je fais le geste à la radio, c'est pas très spectaculaire, mais voilà pourquoi ces civilisations comptaient tout par 12. Je voudrais remarquer qu'il y a 12 mois dans l'année, qu'il y a 2 fois 12 heures dans une journée, etc. On est dans ce registre-là. Alors, une année, avaient remarqué les Babyloniens, ça fait à peu près 360 jours. Et donc, le grand disque du calendrier de l'année était séparé en 360 périodes, si vous voulez. C'est l'origine de la gradation du cercle en 360 degrés. Comme quoi, parfois, il faut aller chercher extrêmement loin les explications de choses qui nous ont l'air évidentes. On dit ça remonte à la nuit des temps. Oui, d'accord, mais lorsqu'on éclaire un peu la nuit, on se rend compte qu'on peut trouver des origines aux choses.